Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous allons relire la fin de ce chapitre, donc à partir du verset 11. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur les versets 20 à 22. Mais lisons donc Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Et voici la parole de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les auteurs ont souligné que Dieu a payé le prix le plus élevé pour nous racheter. Par exemple, Paul, en 1 Corinthiens 6, verset 20, nous dit que vous avez été rachetés à un grand prix. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 1, les versets 18 et 19, vous dit, écrit ceci, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Jésus ne nous a pas rachetés parce que nous étions plus intelligents, plus attrayants, ou meilleurs que les autres. Paul le dit, ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 26, en s'adressant aux Corinthiens, peut très bien nous décrire aussi, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, les versets 6 à 8, Paul écrit, car lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous ne sommes pas sauvés, pour détourner une publicité, parce que nous le valons bien. Non, nous sommes sauvés à cause de la grâce, de la compassion d'un Dieu qui nous aime en Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Dieu ne se contente pas de nous sauver de la perdition ou du péché, mais il nous transforme, il nous remplit de son esprit, il vient habiter dans le cœur de chacun de ses enfants. Et c'est ce que Paul souligne ici à la fin de ce chapitre 2. En Christ, nous sommes devenus, dit-il, un temple saint dans le Seigneur. Une habitation de Dieu en esprit. Pour l'apôtre Paul, c'est à la fois la conclusion de son enseignement sur le salut, mais c'est aussi l'introduction de l'enseignement, de son enseignement sur l'Église et la vie chrétienne, cet enseignement qu'il va donner dans les chapitres suivants, où il va montrer que l'Église est le résultat de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans le cœur de ses enfants. Et ici, donc, à la fin du chapitre 2, il nous dit que l'Église est édifiée comme un temple saint dans lequel Dieu habite et habitera pour toujours. Ensuite, il décrit le fondement indispensable de l'Église. Et puis, il attire nos regards vers Christ, la pierre angulaire sur laquelle repose ce temple saint. Donc, le premier point, un temple saint. C'est le point principal de l'apôtre Paul. L'Église est établie comme un temple saint dans lequel Dieu habite, contrairement aux autres bâtiments qui sont construits avec des briques, avec du béton. Cet édifice est constitué du peuple de Dieu lui-même et il est lié par l'Esprit de Dieu qui habite dans chacun de ses enfants. C'est ce que l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 2, versets 4 et 5. « Approchez-vous de lui, de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, ou vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Dans toute la deuxième moitié de ce chapitre, Paul avait en tête le temple juif comme moyen de décrire la paix que Jésus-Christ est venu apporter. On a déjà mentionné qu'il y avait ce voile qui séparait l'homme pécheur de Dieu, mais Christ a enlevé ce voile. Ce voile a été déchiré lorsque Christ est mort sur la croix. Et nous avons accès dans la présence même de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et on avait aussi vu qu'il y avait ce mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Mais Paul, nous avons lu dans les versets précédents, que le Seigneur Jésus-Christ a enlevé ce mur de séparation. Il a enlevé l'inimitié. Et des deux, Juifs et non-Juifs, il n'en a fait qu'un. Son peuple qui est réconcilié à Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'enseignement de la Bible au sujet du temple commence avec la promesse de Dieu à David. Cette promesse que le fils de David construirait la maison de Dieu, 2 Samuel 7, versets 12 et 13. L'Éternel s'adresse à David, « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Et David a réalisé que Dieu ne parlait pas seulement de son fils et héritier Salomon, mais de son descendant des siècles plus tard, qui serait à la fois fils de David et fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui possède un royaume éternel, un royaume qui dure pour toujours. Bien entendu, le fils de David, Salomon, a effectivement bâti le temple à Jérusalem. Mais lorsque l'arche de l'Alliance est entrée dans le temple, la gloire de l'Éternel a rempli le lieu. Nous lisons en 1 Roi 8, versets 10 et 11, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Et tout cela symbolise l'accomplissement réel et spirituel qui arrive par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur donne son Esprit et que l'Esprit Saint entre dans les cœurs, il apporte la puissance transformatrice de Dieu avec grâce et avec gloire. Le véritable temple de Dieu qui était annoncé est la maison spirituelle qui est l'Église de Jésus-Christ, qui encore aujourd'hui s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et tout comme la nuée de gloire a rempli le temple de Salomon, Dieu veut remplir notre vie et notre Église avec l'Esprit Saint pour nous transformer toujours plus à l'image de son Fils. Et cette comparaison avec le temple juif nous dit un certain nombre de choses au sujet de l'Église et au sujet des véritables chrétiens. La première chose à noter, c'est que nous sommes sauvés personnellement et l'Église existe collectivement pour la gloire de Dieu. C'est ce qui rendait le temple de Jérusalem si spécial. La présence de Dieu remplissait ce lieu de gloire. Et ceci nous amène à poser la question suivante. Qu'est-ce qui nous impressionne au sujet d'une église ou au sujet d'un chrétien? Est-ce que c'est la gloire du monde qui attire l'homme naturel? La gloire de Dieu n'est pas manifestée simplement par une foule nombreuse ou par une abondance de richesses matérielles ou par une ambiance charnelle. Non, elle est manifestée par un peuple qui respecte sa parole, qui l'adore en esprit et en vérité, qui manifeste le fruit de l'esprit, qui accomplit les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, qui vit sous la bannière de l'amour de Christ. C'est le message que Dieu a donné déjà dans l'Ancien Testament, à travers le prophète Zacharie, aux Juifs qui étaient retournés à Jérusalem après l'exode babylonien pour reconstruire le temple. Le temple originel de Salomon avait été détruit. Le peuple était revenu pour reconstruire un temple bien moins glorieux à la place du premier temple. Et le peuple était découragé. Esdras nous dit que lorsque le peuple se réjouit de voir les fondations être posées, les plus anciens, eux, pleuraient. Esdras 3, la fin du verset 11 et le verset 12. Tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Mais dans ce contexte, Dieu déclare à travers Zacharie, Zacharie 2, verset 5, il dit ceci en parlant de l'Église, en parlant de son peuple, il dit « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Je serai sa gloire. La présence de Dieu est la seule gloire de son temple. » Un commentateur écrit ceci. Nous apprenons ici quelle est la vraie gloire de l'Église. Elle n'est pas dans une splendeur extérieure, ni dans aucune sorte de puissance, pas dans des rites ou des cérémonies élaborées, ni dans des cathédrales splendides, ni dans des habits magnifiques, ni dans la belle musique ou dans l'éclat de l'éloquence. La gloire de l'Église est la présence en son sein de la gloire du Dieu invisible. Et cela s'applique à nous tant sur le plan personnel que sur le plan de l'Église. Le prophète Jérémie le résume en disant ceci, Jérémie 9, versets 23 et 24, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, ni que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » L'Église, donc, existe pour la gloire de Dieu. La deuxième chose à noter, c'est que l'Église est sainte. Le temple était un édifice saint, c'est un édifice qui était séparé pour l'adoration de Dieu. On y trouvait à l'intérieur des ustensiles saints qui n'étaient utilisés que pour le service de Dieu. Des personnes saintes, les sacrificateurs, qui étaient mis à part pour le service de Dieu, pour servir son peuple et pour offrir des sacrifices. Et de la même manière, l'Église doit être sainte, séparée. On ne peut pas ressembler à ce monde. Il doit y avoir une différence visible entre le monde et nous. Et bien sûr, cela concerne en priorité le péché. En tant qu'individu et en tant qu'Église, nous devons nous démarquer par une liberté de l'esclavage du péché et une obéissance à la parole de Dieu. On a vu dans notre étude sur Romains que Personne dans cette vie ne sera libre du péché. Le péché sera toujours présent, mais en tant que chrétiens, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons l'Esprit de Dieu maintenant qui nous est donné pour résister au péché. Mais être saint, cela va plus loin. C'est être caractérisé par un désir ardent de connaître Dieu et de vivre pour lui. Et cela va se manifester dans notre attitude, dans le service que nous offrons. Au siècle dernier, un pasteur américain lançait cet avertissement. Il disait « Une des erreurs populaires les plus courantes, celle de laquelle sort la majeure partie de l'activité religieuse bruyante qui fanfaronne dans les milieux évangéliques, c'est la notion que l'Église doit changer et s'adapter à son époque. Cette mentalité qui confond Hollywood et le Temple Saint s'est sérieusement éloignée de la vérité. » Et Jean écrivait aux premiers chrétiens dans 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » À la place de choses qui impressionnent la chair et le monde, notre beauté doit être spirituelle, sainte. Une beauté qui vient de la parole de Dieu, quand l'Esprit Saint utilise cette parole pour changer, transformer nos vies. Et Paul explique cela en Romains chapitre 12, les premiers versets, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand on parle avec certaines personnes de vivre pour la gloire de Dieu, de servir Dieu toute notre vie, les gens commencent à penser que la vie chrétienne et l'Église doivent être ennuyeuses. Mais c'est la question inverse qui se pose. Y a-t-il quelque chose de plus excitant que la vie chrétienne et que l'Église? Y a-t-il quelque chose de plus remarquable que de réaliser que ma vie est bien plus que simplement occuper l'espace pendant un certain nombre d'années en essayant de s'en sortir, d'avoir une vie convenable? Je suis fait, j'ai été créé pour porter l'image de Dieu. Et en Christ, je suis né de nouveau afin que Dieu lui-même vive en moi et brille en moi. Quand tout ce qui est dans ce monde aura disparu, je serai toujours un membre de l'Église de Jésus-Christ, ce temple de Dieu, ce temple saint de Dieu, ce temple que l'Apocalypse décrit en Apocalypse 21, les versets 11 et 23. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Quand on réalise cela, on prend conscience que ce que cela veut dire être chrétien, cela veut dire faire partie de cette glorieuse Église du Seigneur Jésus-Christ, cet édifice dont la construction est le plus grand projet de construction de l'éternité. L'Église est un temple saint qui existe pour la gloire de Dieu. Et Paul va ensuite nous diriger vers cette question fondamentale du fondement, cette question cruciale du fondement de l'Église. C'est le deuxième point. C'est ce qu'il y a de plus important quand on construit un édifice. Deuxième point, donc un fondement solide. Paul dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, verset 20. Cela veut dire que si le fondement est les apôtres et les prophètes, alors le fondement n'est posé qu'une seule fois. Quand les propriétaires ont acheté cette maison, ils ne se sont pas dit, tiens, on va reposer des fondements, des fondations, parce qu'on veut y ajouter notre touche personnelle. Non. On pose un fondement, on pose une fondation et on bâtit par-dessus. Le fondement, la fondation n'est posée qu'une seule fois. Et c'est important de le souligner, parce que d'une part, aujourd'hui, on entend parler de nouveaux apôtres dans certains milieux. Et c'est bibliquement impossible. Les apôtres étaient les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui avaient son autorité spéciale dans le monde, qui étaient les agents directs de sa révélation. Par définition, il ne peut pas y avoir d'apôtres aujourd'hui. D'une part parce que personne ne répond aux critères que nous donne le Nouveau Testament, et d'autre part parce que le fondement n'est posé qu'une seule fois. L'Église catholique romaine prétend que le pape occupe le siège de Pierre avec son autorité apostolique, lui donnant le droit d'interpréter et même de contredire la parole de Dieu. Mais cela est impossible, parce que le rôle des apôtres était de poser le fondement. Nous construisons sur ce fondement. L'œuvre des apôtres n'a pas besoin d'être répétée et ne peut pas être répétée. Il est posé une fois pour toutes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en posant le fondement? D'une part, ils ont posé le fondement en établissant les premières églises locales selon la volonté de Dieu. Mais plus important que cela, ils ont écrit pour nous la révélation complète de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Ils ont été les instruments que Dieu a utilisés pour mettre par écrit sa révélation pour son peuple. Mais Paul parle du fondement des apôtres et des prophètes. Il y a un débat pour savoir si Paul parle des prophètes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Quand on regarde de plus près, Paul parle ici des prophètes du Nouveau Testament. Tout d'abord, en grec, les termes apôtre et prophète sont regroupés derrière un seul article défini. Ce n'est pas les apôtres et les prophètes, c'est les apôtres et prophètes. Et ensuite, parce que Paul liste d'abord les apôtres, or, historiquement parlant, les prophètes sont arrivés en premier, si on parle des prophètes de l'Ancien Testament. Mais Paul ici fait sans doute référence à ceux qui, au premier siècle, possédaient le don de prophétie, tel qu'on peut le lire en 1 Corinthiens 12 et 13. On doit se rappeler que dans les premières années, les premières décennies de l'Église, le Nouveau Testament était en train d'être finalisé, d'être écrit. Et ce n'est que des années plus tard que les livres ont été regroupés et ensuite disséminés de par le monde. Les premières églises locales recevaient la parole de Dieu par la bouche des apôtres. Mais quand les apôtres quittaient pour aller ailleurs, pour aller proclamer la bonne nouvelle ailleurs, il y avait dans ces églises locales des prophètes que Dieu suscitait pour continuer à donner sa parole aux personnes de cette génération. Le problème, c'est que les églises charismatiques d'aujourd'hui croient que ce don de prophétie existe toujours, aujourd'hui. Mais ici, Paul nous dit bien que comme pour les apôtres, les prophètes du Nouveau Testament appartenaient à cette génération apostolique qui avait pour rôle de poser le fondement. Et quand le fondement est posé, quand toute la Bible est complète, la fonction de prophète et des apôtres a cessé. Le fondement est posé. Pas besoin de le poser une deuxième fois. Il est posé. Ce que cela signifie pour nous, c'est que notre fondement en tant qu'Église ne doit être que l'enseignement apostolique dans la parole de Dieu. Alors cela ne se limite pas au Nouveau Testament. Étant donné que les apôtres fondaient leur propre enseignement sur l'Ancien Testament. On a estimé qu'il y a à peu près 8000 versets dans le Nouveau Testament, et que dans ces 8000 versets, il y a environ, il y a un peu plus de 2500 versets qui citent ou qui font référence à l'Ancien Testament. Donc c'est toute la Bible qui doit être notre base de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous croyons. Et comme le fondement supporte le poids de l'édifice, lui donne le modèle de croissance, nous, de la même manière, la parole de Dieu doit être le fondement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons bâtir de manière sûre, de manière solide, de manière fidèle, alors nous devons faire de la parole de Dieu la seule règle infaillible pour notre foi et notre vie. Et le livre des Actes nous dit que l'Église du premier siècle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et nous devons suivre leur exemple et bâtir sur ce fondement seul. Mais un édifice n'est pas sûr seulement par son fondement. Chaque fondement repose sur une pierre angulaire. Et c'est plus particulièrement vrai quand on construit quelque chose avec un édifice en pierre. La première chose que l'on fait, c'est de placer cette pierre angulaire. Tout le reste va dépendre de cette pierre angulaire. Tout le reste va reposer sur cette pierre angulaire. Et c'est ce que Paul dit. L'Église, le peuple de Dieu, le temple saint de Dieu, a pour pierre angulaire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le troisième point, une pierre angulaire unique. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 20, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ces versets nous disent beaucoup au sujet de Jésus comme la pierre angulaire de l'Église. C'est rejoindre ce que Paul a dit dans tout ce chapitre 2. L'Église est composée de ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ par le moyen de son propre sang. Ephésiens 2, verset 13. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jésus a créé l'Église par la puissance de sa résurrection, verset 14. L'île est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il n'y a plus les divisions naturelles que l'on peut trouver dans ce monde. L'Esprit de Dieu maintenant habite dans le cœur de ses enfants. Mais finalement, Jésus est la pierre angulaire, il est le Seigneur de l'Église. Chapitre 1, verset 22-23, Dieu l'a donné, a donné Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et on voit la relation entre le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, ils sont le fondement, Christ est la pierre angulaire. Parfois, on peut entendre certaines personnes aujourd'hui qui nous disent qu'on ne sait pas vraiment ce que Jésus a enseigné, puisqu'on n'a que la version des apôtres. On n'a que ce que les apôtres ont dit, on n'a pas ce que Jésus dit. Mais cette affirmation est une contradiction directe à l'enseignement de la parole de Dieu. Rappelez-vous, la nuit de son arrestation, le Seigneur Jésus dit à ses disciples qu'il va envoyer son esprit. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 et 14. Et juste avant son ascension, dans la gloire, le Seigneur Jésus-Christ souffle son esprit sur ses disciples. Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins. » Paul lui-même rend témoignage qu'il a été choisi comme apôtre par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a été arrêté sur la route de Damas. Jésus-Christ lui est apparu. Il rend témoignage de cela en acte 26, verset 16, où le Seigneur lui dit « Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. » Des choses que tu as vues et de celles que pour lesquelles je t'apparaîtrai. Tout comme le fondement est l'extension de la pierre angulaire, les apôtres, d'une certaine manière, sont l'extension du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Les apôtres et leur enseignement trouvent leur autorité en Jésus-Christ. Et donc nous devons traiter leur parole comme étant la parole du Seigneur Jésus-Christ pour nous. C'est pour ça que les versions de la Bible avec les paroles de Jésus en lettres rouges ne sont pas utiles. Parce que c'est toute la Bible qui est la parole de Christ pour nous. Il n'y a pas de distinction à faire. C'est sa parole qu'il nous a transmise. Jésus-Christ est la pierre angulaire, mais il est aussi le maître d'œuvre qui bâtit son Église. C'est ce qu'il a dit à Pierre en Matthieu 16, verset 18. « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église de Jésus-Christ ne cesse de grandir, une pierre vivante après l'autre, un croyant après l'autre. Jésus ne se contente pas de choisir les pierres et puis de les laisser dans leur état d'origine. Il remplit ceux qu'il appelle de sa gloire, il leur donne son esprit. Il opère une nouvelle création. Il commence avec la nouvelle naissance, mais il poursuit en nous faisant grandir dans la grâce. Il nous transforme, il nous donne un cœur nouveau, il renouvelle notre esprit. Il remplit notre âme de la lumière de Dieu. Il est à la fois la pierre angulaire et le maître d'œuvre. Mais il y a encore une chose au sujet du Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ est la porte de ce temple. Il est le seul chemin par lequel on peut entrer dans cette maison spirituelle, le seul chemin par lequel on peut entrer dans cet édifice, dans ce temple saint de Dieu rempli de sa gloire. Il dit, Jésus dit en Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Trop de personnes pensent que Dieu va les accueillir à cause de leurs bonnes œuvres, parce qu'elles le méritent. Mais le vrai chrétien sait qu'il ne mérite rien par nature, si ce n'est la colère de Dieu. Sa prière, ce n'est pas que Dieu l'accepte sur la base de ses mérites, parce qu'il n'en a pas, mais que Dieu crédite son compte de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il l'accepte sur cette base. Jésus est la seule porte, le seul moyen d'être sauvé de nos péchés, d'entrer dans ce temple saint, de faire partie de ce peuple racheté. C'est donc à lui et à lui seul qu'il faut venir. « Je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé avec certitude. » Et ceux qui entrent par le Seigneur Jésus-Christ, font partie de ce temple saint pour le Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu. Ils sont un temple saint, avec un fondement solide, celui des apôtres et des prophètes, et une pierre angulaire unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le maître d'œuvre et la porte de ce temple. Paul écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Que Dieu nous aide à comprendre ces réalités, qu'il nous aide à les vivre pour sa gloire, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.